France Inter, il est 13h. Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, pression maximale sur Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Appel à démission à droite et à l'extrême droite. Demande d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences de samedi. Sur France Inter, le ministre le reconnaît. Il y a bien eu des consignes de modération données aux forces de l'ordre samedi, mais sans qu'il soit au courant. De nouvelles têtes sont tombées ce matin à la préfecture de police. Hier, les nouvelles mesures de fermeté pour éviter de nouveaux pillages. Que vont-elles changer concrètement? Nous verrons cela avec Emmanuel Leclerc. En tout cas, ces violences ne doivent rien changer au calendrier du débat. C'est la position de l'Élysée. Hier, plus de 8 heures de rencontres avec les intellectuels. Rencontres, mais pas vraiment échanges entre le président et la soixantaine de personnes présentes. Nous entendrons une participante, Agathe Cagé. Quelle solution pour sortir de la crise? FO et la CGT s'invite dans le débat et appelle à manifester aujourd'hui pour le pouvoir d'achat. Dans cette édition encore, le président brésilien Bolsonaro, reçu tout à l'heure à la Maison Blanche par Donald Trump, grâce à Thibaut Cavaillès, témoignage d'un député brésilien qui a quitté son pays parce qu'il est homo. Le Brésil est plus violent que jamais, nous dit cette militante des droits de l'homme.
Le Brésil a toujours été un pays violent. Bolsonaro, il va juste libérer cette violence. Donc là, aujourd'hui, c'est permis d'attaquer d'homosexuels.
Reportage également en Écosse auprès d'éleveurs que l'incertitude totale à propos du Brexit inquiète évidemment. En France, c'est la journée de l'allergie et le constat est clair. Pollution plus changement climatique égale plus d'allergies, une saison plus longue chaque année et on les déclare plus tôt. Ce sera notre rendez-vous santé du mardi avec l'invité du journal de 13h. L'actualité sportive, l'annonce surprise de Florent Manaudou, il replonge dans les bassins, les émotions du haut niveau lui manquaient, nous dira son entraîneur. Et puis le rugby, bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
Décision importante attendue cet après-midi.
Avec des changements attendus autour des plaquages à l'origine aujourd'hui de la moitié des blessures dans le rugby.
On détaillera cela avec vous, avec un reportage dans la région de Toulouse. La météo, bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que nous dit Météo France aujourd'hui?
Eh bien la moitié est aura de belles et larges éclaircies. On aura même un soleil généreux entre les Alpes, le Languedoc et la Côte d'Azur. Les périodes ensoleillées seront plus courtes sur les régions de l'Ouest. On garde même quelques risques d'averses cet après-midi le long des Pyrénées, entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Et quelques averses sont aussi à prévoir sur le Sud Corse et le Var. Côté température, prévoyez 10 à 14 degrés et jusqu'à 18 degrés autour de la Méditerranée.
Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. C'est un des fidèles du président de la République. La pression est très forte sur lui depuis samedi et le pillage des Champs-Élysées. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, nouveaux appels à démission ce matin à l'extrême droite. Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement National aux Européennes. Après Debout la France et le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan et les Républicains. Bref, droite et extrême droite appellent désormais à sa démission. Et c'est cet homme fragilisé qui était ce matin l'invité de France Inter. Pour répondre notamment à ce reproche contraire à celui qui était fait il y a quelques semaines. La police a été trop passive face aux attaques des émeutiers samedi dernier. Les forces de l'ordre en particulier ont très peu utilisé les lanceurs de balles de défense. Y a-t-il eu des consignes de modération passées aux policiers? Oui, mais le ministre ne le savait pas. Aveu assez stupéfiant ce matin sur France Inter, Christophe Castaner. Il revient d'abord sur le renvoi du préfet de police de Paris.
Michel Delpech est un grand préfet qui a une responsabilité, celle de gérer le maintien de l'ordre public à Paris. Nous n'avons pas assumé dans de bonnes conditions cela. Les consignes que j'avais passées n'ont pas été appliquées. Il nous faut du coup une nouvelle équipe managériale pour mettre en œuvre ces consignes-là. Vous savez, dimanche matin, j'étais au commissariat du 8e rencontrer cette famille qui a été sauvée par les policiers, avec les pompiers qui l'ont sauvée. Un des policiers m'a pris en part. Il m'a dit, vous savez, monsieur le ministre, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu le droit d'utiliser l'LBD. Je regarde et je lui dis, mais d'où ça vient? Je pensais même que c'était une rumeur. Mmh. Il se trouve que lundi matin, j'ai su que ça n'était pas une rumeur.
Donc le ministre de l'Intérieur que vous êtes n'est pas au courant des consignes qui sont données aux policiers?
Vous savez qu'il y a 305 000 agents au ministère de l'Intérieur. Et donc je ne suis pas au courant de la totalité de ce qui se passe. Mais effectivement, à la préfecture de police, des consignes ont été données qui ne sont pas remontées au préfet de police, selon ce que m'a indiqué le préfet de police. Et le préfet de police ne m'a pas référé de quelque chose dont il n'avait pas connaissance.
Et ce matin, le chef de file des députés Les Républicains, Christian Jacob, demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la chaîne de commandement de samedi dernier. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Alors le préfet de police avait déjà été démis de ses fonctions hier, mais après les propos qu'on vient d'entendre sur France Inter. De nouvelles têtes sont tombées en fin de matinée, Emmanuel.
Oui, Pierre Godin, le directeur de cabinet de la préfecture de police de Paris. Et puis, celui qui est à l'origine des critiques sévères que l'on a entendues à l'instant, Frédéric Dupuche, l'ancien patron de la police scientifique et désormais ex-directeur de la DESPAP, la sécurité publique parisienne. Après avoir entendu les critiques ces trois dernières mois sur l'usage des LBD, la dangerosité de ces munitions quand elles touchent la tête principalement, il avait décidé de limiter le nombre des armes en service et de les équiper de balles plus molles pour des tirs de dégagement, de désencerclement à courte distance, de 6 à 7 mètres. Frédéric Dupuche n'avait apparemment pas prévenu le préfet de police, qui n'avait donc pas averti la place Beauvau.
Alors Emmanuel, avec vous à présent, analysons deux des annonces faites hier pour que le chaos ne se reproduise pas. D'abord, ces manifestations interdites dans quelques lieux symboliques, les Champs-Élysées à Paris, la place Péberlan à Bordeaux, celle du Capitole à Toulouse. Soyons très concrets, Emmanuel. Imaginons que samedi prochain, des manifestants se présentent dans ces lieux. Que se passe-t-il ?
Eh bien, au moindre attroupement jugé menaçant, les policiers, les gendarmes pourront contrôler les identités, fouiller les personnes et ensuite verbaliser et interpeller si nécessaire. Tout cela sera systématique, un retour strict à ce que l'on a vu en fait le 8 décembre dernier. C'est ce samedi-là, Bruno, que l'on a vu le plus grand nombre d'interpellations, y compris préventives. Plus d'un millier. Ce samedi-là, et qu'il y a eu aussi une grande majorité des tirs de LBD depuis le début des manifestations de Gilets jaunes et le plus grand nombre de plaintes pour des tirs dans la tête de balles de LBD et des lancers de grenades.
Autre annonce, Emmanuel Leclerc, de nouveaux moyens pour pister, identifier les émeutiers, notamment un marquage chimique, très concrètement, en quoi cela consiste ?
Oui, alors il y a une technique qui a été déjà testée par le passé, c'est celui des fusils de type paintball avec des tirs à 20-30 mètres. Et puis il y a ce que Christophe Castaner a précisé ce matin sur France Inter, la technique de la vaporisation utilisée notamment dans les bijouteries. Quand un braqueur repart avec son butin, il peut être sans le savoir aspergé d'un gaz incolore qui le marque durant plusieurs jours. Ça existe évidemment, et certains lanceurs d'eau de dernière génération peuvent charger ce genre de produit pour les vaporiser. Nous confiait ce matin un responsable syndical dans la police, mais encore faut-il pouvoir réussir la manœuvre au bon moment. Et là, c'est une toute autre histoire.
Et les appels à la violence seront signalés à la justice, leurs auteurs amenés à payer les dégâts occasionnés. Voilà une autre annonce faite hier. Sont visés les gilets jaunes aux propos inflammables, style Maxime Nicole ou Éric Drouet. Alors, analyse de l'avocat très présent sur les réseaux sociaux, Maître Eolas.
L'outil existe et il existe depuis fort longtemps puisque c'est une loi du 29 juillet 1881 qui prévoit de sanctionner la provocation au délit. La loi distingue deux cas. Si la provocation n'est pas suivie des faits, c'est 5 ans de prison encourus outre une lourde peine d'amende. Par contre, si la provocation est suivie des faits, la personne est complice. La difficulté qui se pose au parquet, c'est que la provocation doit être directe. Une simple provocation à tout casser ne sera pas suffisante.
Et c'est dans le cas où le caractère direct est établi qu'on peut ensuite faire payer ceux qui appelleraient à manifester violemment ?
L'État est responsable des dégâts causés lors d'une manifestation. Donc c'est lui qui paye en première intention. Mais l'État peut ensuite se retourner et demander à ce que les personnes qui ont causé ces dégâts le remboursent. Je pense que c'est cette action-là qui est également envisagée, qui se heurte là aussi à des difficultés de preuve, notamment du lien de causalité entre les provocations ou la volonté d'organiser une manifestation non déclarée et les dégâts. Je pense que ce sera assez difficile à établir. À ce stade, on est plutôt au niveau de la menace que de l'action réelle bien engagée.
Un propos recueilli par Corinne Audouin et un nouveau bilan chiffré après les émeutes de samedi. 235 majeurs placés en garde à vue, 179 ont été déférés. Alors, à l'heure où il y a ces violences, on sort tout de même du grand débat et arrive le temps des propositions. À l'heure également où la ministre de la Santé se dit favorable à titre personnel à un recul de l'âge de la retraite, les syndicats peuvent-ils se faire entendre ? Les syndicats, assez largement squeezés à la fois par les manifestants et par le pouvoir depuis le mois de novembre, eh bien CGT et FO appellent à une journée de grève et d'action sur le thème du pouvoir d'achat, les salaires, les retraites, les minima sociaux, dans les cortèges également solidaires et les syndicats étudiants. 130 à 150 manifestations sont prévues. Les dernières journées de mobilisation ont fait flop. On verra ce qu'il en est de celle-ci. Premier baromètre à Lyon pour France Inter, Blaise Fayolle.
Le rouge des drapeaux et des gilets des militants CGT et FO domine dans le cortège, mais le jaune est aussi bien présent. Une quarantaine de gilets jaunes ont pris place à l'avant de la manifestation. Parmi eux, Jean-Claude, 50 ans, conducteur de train, qui milite pour la convergence des luttes.
depuis beaucoup d'années, les droits sociaux ont reculé. Et dernièrement, c'est pour des choses comme ça qu'on se bat, pour les droits, pour les retraites. Et donc, le mouvement est tout à fait commun entre les Gilets jaunes et les syndicats.
Les syndicats regardent avec bienveillance les Gilets jaunes, les saluent au départ du cortège. Beaucoup de revendications se rejoignent effectivement, comme détaille Juliette à la CGT d'Enedis.
On a des revendications autour du pouvoir d'achat, notamment des salaires, les pensions des retraités. Autour du service public, autour aussi de la transition énergétique, la fameuse transition énergétique dont on entend beaucoup parler, mais finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui est vraiment mis en place.
João Pereira Alfonso, secrétaire général de l'Union départementale CGT, voit lui aussi dans les actions une complémentarité, même si l'État n'est pas le seul dans le viseur.
Aujourd'hui, le grand oublié de l'histoire, c'est le patronat. Et nous, on veut à chaque fois rappeler que qui c'est qui n'augmente pas les salaires, c'est le patronat. Qui c'est qui nuit aux conditions de travail des salariés, c'est le patronat.
Les Gilets jaunes présents espèrent de leur côté que les syndicats se montreront aussi solidaires lors des mobilisations le samedi. Lyon, Blaise Fayol, France Inter.
Appel à la grève et à la manifestation en partie suivi à Radio France. Ce 13h ne se déroule pas dans des conditions tout à fait habituelles. À Paris, les manifestants défilent du boulevard Saint-Michel au Champ de Mars. En tête, Philippe Martinez pour la CGT, Yves Verrier pour FO. Et une des questions de la journée, quelle proportion d'enseignants dans les cortèges, Sonia Princey? Car le climat est de plus en plus frais avec le ministre. Sonia, vous êtes sur les lieux de la manifestation parisienne qui commence à peine.
Les enseignants sont déjà très nombreux ici dans le cortège parisien. 40% de grévistes parmi les professeurs des écoles primaires selon le principal syndicat, SNUIPP, et 24% selon le ministère. Des enseignants qui protestent surtout contre la loi Blanquer examinée au Parlement. Ils craignent par exemple la disparition des directeurs dans les zones rurales où les écoles seraient regroupées avec les collèges. Le pouvoir d'achat est une autre revendication très forte. On le sait, les enseignants français sont moins bien rémunérés que dans d'autres pays. Et même si le gouvernement a fait des efforts, notamment pour les professeurs en éducation prioritaire, c'est insuffisant et les enseignants du primaire ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires. Des enseignants du second degré sont en grève également, 9% selon le ministère. Ils réclament plus de pouvoir d'achat et dénoncent une réforme du lycée dangereuse pour les élèves. Dans la manifestation parisienne, Sonia Princey, France Inter.
Chacun apporte sa pierre au débat. Comment sortir de la crise ouverte au mois de novembre? Hier, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée plus de 60 intellectuels. Les échanges ont duré plus de 8 heures. Échange, est-ce vraiment le mot? Pas sûr. Il y a eu beaucoup de choses de dites, mais pas un vrai échange. C'est en tout cas l'avis d'une des participantes qui était ce matin l'invitée de France Inter. Elle s'appelle Agathe Cagé, politiste. Elle a travaillé avec Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem.
La limite de l'exercice, c'est quand vous n'avez pas la possibilité de lui apporter la contradiction. C'est-à-dire que vous parlez deux minutes, le président de la République vous répond, vous avez dit blanc, il vous a dit noir. Et ce défaut de contradiction, c'était un peu la limite de l'échange. C'est-à-dire que quand vous échangez avec des chercheurs, comme quand vous échangez avec des élus locaux, on n'est pas seulement là pour exposer au président des problèmes. C'est aussi pour lui mettre le doigt sur un certain nombre de constats, faire un certain nombre de propositions, avancer des solutions. Et ça, ça nécessite des échanges un tout petit peu plus longs et ça nécessite une véritable partie de ping-pong.
Un propos ce matin sur France Inter recueilli par Mathilde Munot. C'était l'invité de 6h20, Agathe Cagé, sur ce débat avec les intellectuels. Vous en retrouvez de très larges échanges sur le site internet de nos confrères de France Culture qui ont diffusé ce débat. Un lien entre réchauffement climatique et augmentation des allergies. Trois réseaux de scientifiques, le plus connu c'est Atmo, l'analyse de la qualité de l'air. Trois réseaux établissent ce lien. On en parle avec l'invité du journal de 13h dans un instant.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvy.
Invité qui est le docteur Nan Pham Thi, allergologue au centre médical de l'Institut Pasteur à Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors à l'occasion de cette journée française de l'allergie, il y a donc cette analyse de trois réseaux de scientifiques selon laquelle le réchauffement climatique va conduire à une augmentation des quantités de pollen et donc plus de gènes ou d'allergies respiratoires. Est-ce que vous validez de cela de votre poste d'observation ?
Exactement. Déjà, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles au pollen, qui développent ce qu'on appelle les pollinoses, de la rhinite, de l'asthme. Et le phénomène de la pollution vient aggraver cette situation pour différentes raisons. Soit parce qu'il y a un effet irritant qui augmente les symptômes, et aussi la pollution, on se rend compte qu'elle agit directement sur les grains de pollen en augmentant leur allergénicité.
C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles personnes qui sont touchées ?
Il y a de plus en plus de personnes. Les prévisions de l'OMS annoncent qu'une personne sur 5 sur 4 sera gênée bientôt. Il y a effectivement chaque année des nouveaux diagnostics au moment de la floraison, des pollens, de gens qui n'étaient pas du tout sensibles auparavant et qui deviennent tout d'un coup très allergiques avec le nez, pris, les yeux et les voies respiratoires. Et parfois, ces symptômes peuvent être sous-estimés et conduire la personne aux urgences à l'hôpital pour une crise d'asthme sévère. Alors ce que l'on observe, c'est un recul de l'âge. On a de plus en plus d'enfants qui ont ces allergies au pollen de plus en plus tôt. Avant, on voyait cela à partir de l'âge de 6-7 ans. Maintenant, on voit des enfants dès l'âge de 2-3-4 ans avoir des symptômes que l'on aurait observés chez leurs grands frères et sœurs avant. Donc il y a un recul de l'âge. Après, je dirais qu'il n'y a pas véritablement d'âge pour déclarer des allergies. On peut commencer à en faire à l'adolescence, à 30 ans, et même beaucoup plus tard, à l'âge de la retraite, je dirais, eh bien, on voit les parents, les grands-parents qui accompagnent les enfants se dire, bah, écoutez, moi, docteur, aussi, j'ai des symptômes. Ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de cible et d'âge. On a un terrain de sensibilité génétique qui est composé d'une sorte de porosité des voies respiratoires, de la peau, et puis un système immunitaire qui devient plus en plus chatouilleux, sensible, et le cocktail des deux font que les allergies se déclarent.
Est-ce que la saison des allergies est plus large qu'avant, commence plus tôt ou se termine plus tard ?
Effectivement, dans certaines régions, on voit que la concentration de pollen peut être plus large en fonction des aléas climatiques, du fait qu'on ait un printemps, entre guillemets, un peu déréglé. Et donc, à ce moment-là, on a une concentration plus étendue, avec des pics éventuellement plus fréquents. Donc, on a des saisons qui peuvent être un peu plus allongées, des présentations d'allergènes associés à des pics de pollution qui peuvent donner lieu à des pics de consultation, d'appels médicaux, de consommation de médicaments, de visites chez le pharmacien. Donc tout ça, on le voit bien avec l'analyse de toutes nos big data. Ce sont des associations qui sont de plus en plus évidentes.
Est-ce que les allergies, ce sera ma dernière question, comme d'autres pathologies, est-ce que plus on les prend tôt, mieux elles sont soignées ?
Exactement. Vous avez tout à fait raison. Si on fait un diagnostic précoce, on va pouvoir anticiper, prendre des médicaments symptomatiques adaptés et éventuellement mettre en place une désensibilisation pour éviter que ce phénomène, d'année en année, ne s'aggrave chez le patient, la personne allergique.
Et il y a une manière de se protéger ?
Ouf, ouais, c'est compliqué. Hein. Mais effectivement, ce que je conseille en ce moment, c'est que pour les personnes allergiques, c'est que dès que vous sortez, que vous rentrez, ben vous lavez toutes vos surfaces en fait, hein, le nez, les yeux, rincer pour enlever le pollen qui a une action un peu continue, puis prendre son traitement que votre allergologue vous a prescrit pour diminuer les symptômes. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire, hein, c'est rentrer la tête dans les épaules, bien écouter les alertes de pollen, de pollution et faire attention.
Le docteur Nan Pham Thi, qui est allergologue à l'Institut Pasteur à Paris, entretien enregistré en milieu de matinée. Certes, il ne postulera pas à un cinquième mandat, mais il va prolonger son quatrième au-delà de la date prévue et jusqu'à quand on ne sait pas. Abdelaziz Bouteflika a confirmé hier soir dans un message ce que les manifestants redoutaient. Il ne partira pas à l'expiration normale de son mandat fin avril. La présidentielle est reportée. Il n'y a pas de nouvelle date à ce moment. Alors, est-ce que cela motive les manifestants qui sont appelés une fois de plus à descendre dans la rue ce mardi? Reportage Waïba Filali.
On retrouve ici les étudiants des universités de pharmacie, de médecine, de sciences, les élèves d'économie, ceux de l'école des travaux publics qui sont arrivés casque jaune sur la tête, drapeau national autour des épaules, toujours dans une ambiance joyeuse. Plusieurs milliers de jeunes chantent, certains rythment la marche avec des derboukas, des youyou. Ils prennent des photos, des vidéos, des selfies d'eux tout en criant « Voleurs, vous nous avez pillé le pays » sur leur banderole. Encore beaucoup d'humour aujourd'hui. Mon nutritionniste me déconseille ce régime. On retrouve aussi de la détermination, vous avez allumé en nous une flamme qui ne s'éteindra qu'après votre départ. Les étudiants veulent montrer donc qu'ils sont plus déterminés que jamais, plus pacifiques aussi, puisque lorsque le cortège s'approche d'un hôpital, eh bien les manifestants se taisent. On ne va pas déranger nos frères, nos sœurs, nos parents, m'explique alors une jeune manifestante qui continuera de marcher, dit-elle, jusqu'à ce que le système dégage.
Voilà pour ce reportage en Algérie. Nous allons à présent entre Brésil et États-Unis. Premier point commun, ils sont présidents d'un grand pays. Deuxième point commun, il penche franchement à droite. Et troisième, beaucoup les détestent allègrement. Le Brésilien Bolsonaro, reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump tout à l'heure. Vous aurez le récit dans nos prochaines éditions. Avant cela, un témoignage. Bonjour Thibaut Cavallès.
Bonjour Bruno.
Témoignage d'un député brésilien qui a choisi de quitter son pays. Thibaut, circonstance particulière, il est homosexuel, ce qui est un vrai handicap au pays de Jair Bolsonaro.
Jean Vilis, 44 ans, député socialiste et défenseur des droits des homosexuels. Deux mandats derrière lui, il a été élu
pour un troisième, devait prendre ses fonctions le 1er février dernier, mais a préféré s'exiler en Allemagne. Tout a débuté, dit-il, en 2011.
La campagne diffamatoire dont j'ai fait l'objet est partie du fait que j'étais un homo assumé. C'est important de signaler que ces attaques contre moi ont débuté dès 2011 et que Jair Bolsonaro, alors député, y a participé.
Vélis défendait le mariage homosexuel ou s'était opposé à la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016. À partir de là, la campagne contre lui s'est intensifiée jusqu'à il y a un an, l'assassinat de Marielle Franco, elle aussi engagée en politique, elle aussi ouvertement homosexuelle. Depuis, Jean Vilis est menacé de mort, placé sous protection policière.
L'idée que je devais être assassiné était devenue si naturelle au Brésil que même une juge de Rio a dit sur un groupe Facebook de magistrats qu'il fallait m'exécuter préventivement pour éviter toute infection.
Jean Vilis a fui un pays donc où la violence est aujourd'hui presque légitime. Et Erika Campelo est coprésidente de l'association Autre Brésil qui décrypte les enjeux notamment sociaux du pays.
Le Brésil a toujours été un pays violent. Bolsonaro, il va juste libérer cette violence. Donc là, aujourd'hui, c'est permis d'attaquer d'homosexuels, d'attaquer les femmes, les peuples des quartiers populaires qui sont habités par des personnes plutôt noires.
Trois autres militants, politiques ou activistes se sont, comme Vilis, exilés, menacés notamment de mort pour avoir, entre autres, défendu l'avortement. L'exil forcé face à un Jair Bolsonaro qui lui semble très peu inquiété.
Aux Pays-Bas, la piste terroriste est sérieusement étudié par les enquêteurs après la tuerie qui a fait 3 morts hier dans le tramway d'Utrecht. C'est une lettre retrouvée dans la voiture du suspect qui mène les enquêteurs sur cette piste terroriste. À Bruxelles, une partie du quartier européen a été bloquée ce matin par une alerte à la bombe. Cela à la veille du sommet consacré au Brexit. Le Brexit, justement, venons-y une fois de plus. C'est le plus grand flou aux communes à Londres. Theresa May n'est pas certaine de pouvoir présenter au vote l'accord de sortie conclu avec l'Union européenne. Présenté une fois de plus, serait-on tenté de dire. Et les atermoiements sont de plus en plus mal vécus en Grande-Bretagne, notamment dans les Borders, en Écosse, où nous sommes allés en reportage à la frontière avec l'Angleterre. Marie-Pierre Véraud s'est rendue à la rencontre des éleveurs écossais dans un marché aux bestiaux.
Ce sont les enchères pour les moutons ce matin-là. Négociants et éleveurs se pressent.
Je m'appelle Alan Murray et je suis éleveur ici dans les Borders écossais. Et ce matin, j'apporte des bêtes au marché. Le principal problème avec le Brexit, ce sera pour le bétail, en particulier les moutons et les agneaux. On exporte beaucoup en Europe et on va perdre ce marché jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement à l'exportation soit trouvé. Mais cela aura un coût et je ne sais même pas combien je retirerai de la vente de mes agneaux cet été.
C'est le plus gros défi en ce moment pour les éleveurs écossais, le manque de visibilité. Tous le répètent, comme Robert Nail, venu d'une ferme voisine, il possède quelques 300 bêtes.
Les fermiers ont besoin de faire des prévisions pour l'avenir. Par exemple, moi je suis éleveur de bœuf écossais. C'est un cycle de 3 ans entre le moment de l'insémination et celui où on vend le veau. 3 ans avant un retour sur investissement. Et en ce moment, c'est dur, on ne sait pas où on va. Le Brexit est au coin de la rue, dans 2 semaines, et on n'a toujours aucune information précise sur ce qui va se passer, des décisions. C'est cela dont nous avons besoin.
Et c'est bien ce dont ils risquent encore de manquer. Dans les Borders, en Écosse, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Nous parlions il y a quelques jours du manque de reconnaissance des femmes scientifiques. Eh bien, un prestigieux prix est remis à une femme, le prix Abel de mathématiques. Récompense pour la première fois une femme, l'américaine Karen Uhlenbeck. Sa belle gueule et ses épaules de champion sont de retour à la une de l'équipe. Ce n'est pas un hasard. Le nageur Florent Manaudou fait son grand retour. La pause pour le nageur aura duré moins de 3 ans. Son objectif, c'est l'or olympique l'année prochaine à Tokyo et pourquoi pas à Paris en 2024. Fabrice Abgral a joint l'un des entraîneurs de Manaudou, Romain Barnier. Les montagnes russes émotionnelles du haut niveau lui manquaient.
Son retour, il doit être essentiellement dû au fait qu'il avait pris l'habitude de gagner ou la peur de ne pas gagner et qu'il vivait sans ces deux sentiments-là. Je crois qu'il commençait à avoir du mal à être heureux. Donc il a besoin de retrouver ses repères de la chambre d'appel, de la peur, des joies, des déceptions, voilà, ces émotions fortes qui vous traversent quand vous êtes un sportif de très haut niveau, avec ces longs couloirs de l'angoisse des 24 heures qui précèdent une course et puis ces grands moments de plaisir quand ça marche. Je crois que ça lui manquait, hein, c'est son régulateur d'humeur qui devait être affecté. Il a dû se rendre compte.
Voilà pour ces propos recueillis par Fabrice Abgral. Ça ne peut évidemment plus continuer. On parle de rugby. En un an, 4 jeunes joueurs ont trouvé la mort pendant ou juste après un match. Les chocs sont de plus en plus violents. Il faut faire évoluer les règles pour éviter de nouveaux drames. On en débat depuis hier à Marcoussis, au Centre National du Rugby. Parmi les décisions attendues, l'abaissement de la ligne de plaquage au niveau de la ceinture et l'interdiction du plaquage par 2 joueurs en même temps. Ces mesures, elles sont déjà testées depuis 3 mois à Toulouse, dans le milieu universitaire. Reportage Fanny Lechevestrier.
Le plaquage.
À chaque match, le rappel des nouvelles consignes et son lot de coups de sifflet pour les faire respecter.
En bas, lâchez les deux.
Il faut être plus présent, il faut beaucoup plus parler, il faut prévenir, parce que sanctionner pour sanctionner, aucun intérêt.
Précise l'arbitre Vincent Mascarenque. L'expérience a en fait été lancée en décembre après la mort de Nathan Soyeux des suites d'un plaquage lors d'une rencontre universitaire. L'objectif, voir si en changeant les règles, la dangerosité des plaquages diminue. S'il est encore trop tôt pour le dire, les résultats se font en revanche déjà sentir sur le jeu, souligne Albert Sigagna, responsable de la Fédération sportive universitaire d'Occitanie.
Ouais, je pense que ça libère des possibilités aux attaquants. La dangerosité, est-ce qu'on l'a enlevée ou pas? Je sais pas. Après, il y a du plaisir à se faire des passes.
Les joueurs semblent aussi persuadés que la piste est à creuser.
Ça change. On va commencer à adopter un rugby qui va être beaucoup plus aérien.
Il va falloir faire comprendre à certains qu'il faut réfléchir et pas uniquement regarder la personne en face et lui rentrer dedans. Je pense qu'il n'y a pas de raison que d'ici une dizaine d'années, on n'arrive pas à faire des beaux matchs avec des plaquages et des règles comme on a eu là.
Et l'impression que le rugby ne s'en sortira que par le jeu pour ne plus tuer, mais aussi séduire à nouveau.
Voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille d'écouter ou réécouter sur franceinter.fr le reportage d'Interception dimanche dernier consacré à ce sujet, commotion, le casse-tête du rugby français. Reportage de Fanny Lechevestrier, justement. Du théâtre, pour finir ce journal. Montaigne, remise au goût du jour à Nancy, au théâtre de la Manufacture. Le metteur en scène Michel Didim y présente en ce moment Voyage en Italie. C'est un montage des textes de l'auteur du XVIe siècle, Stéphane Capron.
Nous sommes en 1580, il a fallu 17 mois et 8 jours à Montaigne pour traverser les Alpes et rejoindre Rome. Il observe la société et se heurte à la guerre de religion entre les catholiques et les huguenots. Michel Didim a souhaité mettre le siècle de Montaigne en parallèle avec le nôtre.
Quand on défile tous dans la rue en disant « Je suis Charlie », d'où ça vient? Tout ça vient de Montaigne. Lui, il nous a montré le chemin, comment des protestants, des zwingliens, des calvinistes, des israélites pouvaient cohabiter avec des catholiques sans qu'il y ait des égorgements, sans qu'il y ait de la haine, sans qu'il y ait du sang. Ce qu'il veut, c'est rencontrer l'autre, se nourrir de l'autre, de la richesse de l'autre, des autres cultures, et que ça revienne en France. Il symbolise ce que l'intelligence française peut réaliser, en fait, entre les hommes. Comment des gens de bonne volonté sont capables de ramener le calme par la parole, par l'intelligence et le sens critique.
Le propos de Montaigne est malheureusement dilué dans des considérations qui s'apparentent plus à un guide touristique des faits et coutumes de l'époque qu'à un traité de pensée philosophique. À la scénographie un peu vieillotte du spectacle, contraste des moments plus modernes, comme cette chanson interprétée par Maxime Keller, connu sur la scène nancéenne pour ses prestations dans des groupes de hard rock. Ici, il slame sur des poèmes du XVIe siècle.
Les sinistres comètes dans le ciel annoncé, la fin du monde est proche car Dieu est courroucé.
Voyage en Italie à la Manufacture de Nancy jusqu'au 22 mars, puis en tournée en France pendant un an dans plus de 20 villes de l'Italie à l'Égypte. Au téléphone sonne ce soir à 19h20 avec Fabienne Sintès et ses invités. Exposition Toutankhamon à Paris. Pourquoi l'égyptologie nous fascine tant? 01 45 24 7000 et franceinter.fr pour vos interventions. Le standard ouvre à 18h en ce qui concerne le téléphone.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
En même temps, le standard, c'est souvent le téléphone. Sébastien Léas.
Cet après-midi, le soleil s'impose des Alpes à la Côte d'Azur et au Languedoc. Quelques nuages fleurissent entre le Roussillon, le Massif central, l'Est parisien, jusqu'au Jura et au Grand Est, mais les éclaircies restent larges et prédominantes. Sur le reste du pays, les nuages sont plus nombreux et les éclaircies plus courtes. Quelques averses sont encore possibles sur les régions du Nord-Ouest et le long des Pyrénées, apportant un peu de neige au-dessus de 900 mètres d'altitude. Le Var et le Sud-Corse peuvent aussi voir des averses se développer cet après-midi, avec même un risque de coup de tonnerre. Mistral et Tramontane restent sensibles cet après-midi et le vent souffle également autour de la Corse et sur les Pyrénées. Côté température, les maximales sont en légère hausse. Cet après-midi, prévoyez 10 à 14 degrés en général, avec 13 à 18 degrés autour de la Méditerranée.